quante stelle.
Que se passe-t-il si l'on faisait un pas de côté dans la vie? On ferait des rencontres parfois étonnantes et souvent optimistes. On irait vers l'autre et on le verrait autrement. Retrouvez le fruit de ces échanges dans Autrement, parmi les rencontres impromptues et mots partagés, une série d'émissions proposées par Michel Brissot, diffusée le samedi à midi par Antenne Doc.
Eh bien voilà, je suis au Carlieu à Saint-Céré. Carlieu qui est très étrangement nommé puisqu'en fait il y a quatre activités principales, on aurait pu dire un quatre lieux ou... Mais c'est un Carlieu, considérant que chaque élément est important et nommé pour lui-même. Voilà. Alors, c'est un lieu très... qui fonctionne autrement que d'autres lieux de prestation. Ce n'est pas un lieu où des gens vont intervenir pour vous, comme un plombier voilà, et d'autres. Différents territoires qui vont à un territoire de service, donc avec la maison France Service. Il y a un hôtel d'entreprise où des gens peuvent venir tenir réunion, travailler, voilà, le coworking et le Fab Lab. Le Fab Lab, c'est ce dont on va parler parce que c'est celui qui est le plus concret, le plus intéressant, dans lequel il y a une réalité physique avec des matériels qui sont là pour produire ce que, grosso modo, en tant qu'humain avec nos deux mains, nous ne pourrions pas produire. Impossible. On ne sait pas d'emblée. D'autrefois, dans l'industrie automobile, il y avait des gens qui étaient capables d'inventer des formes, des matrices en volume, de 3D, pour toutes les formes d'ailes de voitures et autres. Maintenant, on a des machines qui sont encore assez petites, mais il y a des grosses, m'a-t-on dit, qui permettent de construire des objets dont les formes peuvent exister à la fois pour leur aspect extérieur, mais aussi pour leur aspect intérieur. Alors le Fab Lab, dénomination américaine, qui est un laboratoire de production, hein, de fabrication, et voilà, à Saint-Céré, c'est le seul qui est installé dans le Lot. Non ? Ah, je vois Guillaume. Alors justement, on va rebondir sur cela. Guillaume, vous allez me dire tout de suite et après je repasse la parole à Anne.
Oui, bonjour. Donc Guillaume Escobar, je suis animateur au Fab Lab depuis 2 ans. Le Fab Lab, effectivement, c'est un espace où l'on trouve une multitude de machines numériques sur lesquelles les gens vont venir apprendre à les utiliser pour réaliser leurs projets. Alors, on n'est pas le seul Fab Lab dans l'Hôte, hein, on a aussi à Gourdon, il y a un Fab Lab qui est situé dans le centre de Gourdon, voilà, avec lequel on a des partenariats. Donc notre lieu a été ouvert en novembre 2021, inauguré en novembre 2021. Il est composé de deux ateliers. Il y a un atelier en bas où on va retrouver des machines comme une découpeuse laser deux découpeuses laser d'ailleurs, et une grosse imprimante 3D industrielle. Donc c'est l'atelier où il y aura l'outillage, où il y aura un petit peu de bruit, de poussière, etc. Et à l'étage, un autre atelier composé de machines comme il y a deux imprimantes 3D, un scanner, une brodeuse, une machine à coudre. Et après, nous disposons également de plotteurs de découpe vinyle, donc pour faire des autocollants, et de casques à réalité virtuelle.
Le casque, puis après je repasse la parole, je vais passer la parole à Anne pour un aperçu plus général. Les casques ont quelle réalité non virtuelle dans votre organisation?
Alors nous, on l'utilise pour à deux fins. Une, la fin, on va dire ludique, où on montre aux gens ce qu'est un casque virtuel, donc c'est-à-dire les immerger dans un monde totalement différent, dans un paysage, un jeu vidéo, peu importe, ça on le fait lors de nos soirées jeux. Mais ces casques, on les a commandés parce que on a des partenariats avec des entreprises et il y a des projets en commun qui vont émerger autour de cette réalité virtuelle. Voilà, donc on a plusieurs entreprises qui travaillent sur ces casques.
Donc, pardon pour mon erreur de départ, vous n'êtes pas les seuls, je le craignais, mais non, vous êtes les premiers peut-être, je ne sais pas. Non plus. Bon, bon alors. Bon, on va continuer dans l'humilité, alors. Alors, Anne Pécrix-Pinquier, vous êtes directrice du service développement ingénierie financière. Donc, vous êtes dans le cadre de Covaldor, donc la communauté de communes Causse et Vallée de la Dordogne. Et peut-être vous allez nous situer d'abord le champ de vos activités, et puis d'autre part, l'esprit qui a présidé à la création de ce CARLIEU.
Oui, bonjour. Oui, directrice développement territorial, ingénierie financière, ça veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose. Développement territorial, d'abord, je vais commencer par ingénierie financière. Donc, notre but avec Clara, c'est d'aller chercher du financement pour les projets, que ce soit de la commune, enfin des communes, de les aider à monter des projets et à les financer surtout. Et de l'intercommunalité, voilà. Quand on construit un gymnase, on va chercher les financements auprès de nos bailleurs. Et puis, on va essayer de diversifier ces sources de financement qui sont de plus en plus difficiles à aller chercher, quoi, du mécénat ou des certificats d'économie d'énergie, voilà, toutes sortes de financements, publics ou privés. On va avoir toute la partie projet alimentaire de territoire, donc agriculture plutôt forêt, avec quelqu'un aussi qui s'en occupe. On va avoir tous les partenariats, contractualisation avec nos partenaires, régions, départements, États, avec notamment des programmes très ciblés comme territoire d'industrie. On va avoir les contractualisations avec les associations, avec ceux qui aident les associations et avec nos partenaires comme le PNR ou voilà, d'autres. On n'est pas tout seul, on navigue dans un environnement où on mène des partenariats très étroits avec nos collègues.
Pour bien situer les choses, le territoire physique du CARLIEU, c'est un endroit d'où vous travaillez, mais qui n'est pas significatif de l'ensemble de vos activités. Vos activités principales étant pour des séries de projets mis en place au niveau de la communauté de communes, d'aller trouver des financeurs, des apporteurs de moyens ou de développement de projets.
Tout à fait, la collectivité travaille à appuyer l'ensemble des partenaires et des acteurs du territoire sur le développement de leurs projets. Et ça passe par un appui ici, au CARLIEU, mais ça passe également via l'Office du tourisme qui appuie tous les prestataires touristiques dans leur développement, mais aussi ça va passer par Covaldor Expansion, notre agence de développement économique qui appuie le développement des entreprises au travers la palette d'outils, donc ça va être de l'ingénierie principalement, ça peut être aussi de l'aide au montage de projets, de l'aide au développement, de la prévente de terrain sur nos zones d'activité, et voilà, donc on développe au sein de la communauté de communes toute cette palette d'outils pour appuyer les acteurs du territoire à se développer, à monter des projets. Et effectivement, le Fab Lab fait partie de cette palette. Et c'est la palette, plutôt le volet numérique et le volet accompagnement à l'utilisation des machines.
Puis par rapport, on y reviendra un petit peu plus tard, les raisons pour lesquelles ce territoire de CARLIEU a été créé, c'était une volonté des élus de le faire. C'était une nécessité, c'était quelque chose qui donne un plus, mais on ne sait pas trop ce que ça pouvait vouloir donner. Comment s'est construite cette philosophie de mettre en place un CARLIEU, comme il peut y en avoir d'autres dans d'autres territoires? Il y a des lieux aussi un peu étranges, comme à Gramma, avec un lieu qui s'appelle Microfolie, qui est un lieu qui aussi utilise non pas la production de biens, mais l'usage d'images avec la virtualité qui l'accompagne. Alors, donc cette philosophie qui a présidé à la mise en œuvre de ce CARLIEU.
En fait, les élus, on entendait beaucoup parler de Fab Lab, de numérique, de machines. On est dans un système économique, ici, à s'insérer au cœur de la Mécanique Vallée. Donc ce chapelet un petit peu d'entreprises qui travaillent sur l'aéro, sur la mécanique, avec le système aussi de Figeac. Ça va jusqu'à Limoges, avec toute la mécanique, avec des grosses entreprises. Donc on est entouré de ce paquet d'entreprises innovantes, absolument extraordinaires dans leur domaine, que ce qu'on parle de Tio, d'Itop, du CEA, de Cermati, de, de pioche. On est dans un système assez exceptionnel. Et on ne les connaissait pas vraiment. On les a rencontrés pour connaître un petit peu leurs besoins, leurs envies. Et puis pour parler aussi de numérique, pour parler d'attractivité de leurs entreprises. Et on les a écoutés. Et ces entreprises, elles nous ont dit, si on ne s'ouvre pas, attractivité, si on ne regarde pas le numérique, si on ne regarde pas les technologies, que ce soit intelligence artificielle, imprimante 3D, demain, on peut mettre la clé sous la porte. Donc c'est pour nous intéressant. Bon, on est au courant de ça parce que voilà, on s'informe, on n'est pas ignorant, on ignore tout ça. Pour autant, on n'en parle pas entre nous, on n'en discute pas, il n'y a pas de lieu commun à l'ensemble des entreprises pour pouvoir discuter et pour pouvoir parler autour de ces technologies. Grosso modo, on reste dans nos projets, on reste dans nos entreprises, nos ingénieurs mènent leurs projets, mais il n'y a pas de lieu comme ça, un petit peu hybride, où on pourrait se rencontrer, où on pourrait réfléchir autour d'une technologie. Et nous, ça nous intéresse de s'ouvrir aux gens, plus particulièrement aux enfants, parce que les enfants sont l'avenir de nos entreprises aussi, les enfants du territoire en font partie. C'est le stagiaire qui commence en troisième et qu'on va revoir 10 ans après en ingénieur. Et ce stagiaire saura qu'il y a une entreprise de pointe dans son territoire et qu'il peut revenir y travailler à un très haut niveau.
Il y avait nécessité d'avoir un territoire dans lequel les entreprises, les responsables puissent échanger, discuter, mettre en contradiction presque leur position sur le numérique ou pas numérique. Ou voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, la première étape étant passée, le lieu existant, est-ce que c'est toujours un lieu de mutualisation pour les entreprises dans des formes d'échange horizontales ?
Tout à fait, on les a réunis il n'y a pas si longtemps que ça, justement, parce qu'en fait, elles viennent découvrir le lieu, elles retrouvent ici un appui en ingénierie au travers de l'accompagnement de Myriam ou de Guillaume. Donc elles viennent individuellement, puis les gens se rencontrent pour les avoir à un moment donné, il y a très peu de temps réunis autour de ces questions. Eh bien, elles ont pu échanger entre elles sur la nécessité de travailler collectivement, d'aller plus loin, de mutualiser. Alors, ils ne peuvent pas tout mutualiser, hein, il y a du secret professionnel, évidemment. À chaque fois qu'ils viennent mener un projet, c'est en individuel. Pour autant, il y a des croisements qui se font. Guillaume a parlé d'intelligence artificielle. Pas d'intelligence artificielle, ça c'est le prochain challenge de la réalité virtuelle. Il y a des projets qui peuvent se faire en commun autour de ces technologies. En fait, ils n'ont pas expérimenté. Ils ont beau le connaître, en connaître les finalités. Nous, on va leur apporter et la technologie et les personnes aussi qui sont capables de réfléchir avec eux, collectivement, pour aller plus vite en fait dans ça et leur faire gagner du temps. Et on a fait gagner, on a travaillé collectivement avec les entreprises pour qu'elles gagnent en compétences, mais collectivement, hein, nous aussi on a gagné en compétences. Chaque projet nous fait monter en compétences, que ce soit un projet d'un particulier ou un projet d'un industriel, nous pousse les chargés de mission dans leur retranchement pour essayer d'apporter une aide. On n'a pas vocation à finaliser un projet, de trouver la clé ou de réussir. Mais ce n'est pas tant la finalité, c'est plus le chemin intellectuel que l'on parcourt pour mener à bout un projet qui est intéressant. Et le côté collectif est effectivement hyper intéressant pour chacun de nous.
Et vous avez eu des retours des différentes entreprises qui ont participé à l'élaboration à travers leurs problématiques, à travers leurs questionnements, l'élaboration du Carlieu. Et aujourd'hui, ces entreprises ont le sentiment d'avoir fait un bon choix en discutant collectivement et en permettant que naisse ce territoire du Carlieu.
On n'a pas fait que discuter, elles se sont vraiment engagées aussi en mettant du personnel, en mutualisant des compétences. Je pense que aller dans l'affirmative quand je dis qu'elles sont contentes d'avoir ce lieu, dans tous ses aspects, hein, que ce soit le Fab Lab, que ce soit les salles de réunion, à chaque fois quelqu'un rentre, il ne s'imagine pas tout ce qu'il y a derrière, et quand il y voit une utilité, ce sera peut-être en one shot ou très régulièrement, quand il aura une idée, il saura qu'il y a cet outil mis à disposition et la plupart du temps, ils en ressortent absolument ravis. Thank you.
le territoire du Carlieu est implanté dans une ville, Saint-Céré. Est-ce que la ville elle-même, à travers ses institutions, la commune, les institutions politiques, a une forte de fascination ou d'intérêt majeur ou fort par rapport à ce territoire, puisqu'en fait, elle dispose de quelque chose qui lui donne une valeur ajoutée à la commune, si on s'en sert bien.
Oui, tout à fait. De toute façon, commune et interco ne font qu'un dans les objectifs. Et on travaille effectivement avec un bassin de vie qui est un peu plus large. C'est sûr que quelqu'un qui a une heure ou deux heures d'ici, c'est un peu compliqué. Mais on rayonne quand même à 30, bien, une trentaine. On voit juste beaucoup de gens qui viennent de Vérac, de Corrèze, d'un petit peu partout. Et la ville nous aide beaucoup à communiquer auprès... du grand public, auprès des écoles aussi, sont assez partenaires, auprès des scolaires et du périscolaire. Donc ils nous amènent souvent du public. On a eu aussi l'exposition d'un travail sur Marc Petit avec la commune. Donc on mène ensemble des projets qui sont un petit peu multifacettes, qui mêlent à la fois le culturel. Le numérique, c'est qu'un moyen, en fait. On arrive avec des projets un petit peu collaboratifs à travailler collectivement sur des sujets divers, que ce soit de la pédagogie pour les enfants, que ce soit de la culture, que ce soit avec l'Office du tourisme. Voilà, c'est un outil d'attractivité de la commune et plus globalement du territoire. Parce que venez vous installer au cœur d'un bassin qui est celui de la Mécanique Vallée à Saint-Céré. Vous disposerez de l'accompagnement de la collectivité au travers son agence de développement économique, vous bénéficierez pour un temps d'un bureau pour vous tester, vous bénéficierez de l'accompagnement aussi de l'ensemble des acteurs. C'est une vraie plus-value, oui, pour un territoire et puis pour la commune, oui, effectivement.
Alors on a fixé très schématiquement, très rapidement, les enjeux, les mises en œuvre, la manière dont les uns et les autres ont pu intervenir. Fab Lab, une sorte d'atelier de fabrication ou de laboratoire qui permet la fabrication, qui dit fabrication dit objet. Et on produit quoi comme type d'objet, pour qui, comment? Alors je suppose qu'entre un particulier qui vient au Fab Lab ou découvrir ou le fabriquer quelque chose et une entreprise qui, à travers un projet, ça peut être des projets, je ne sais pas, de maintenance de pièces qui sont fatiguées, usées ou cassées, ou de création de projets avec peut-être des maquettes d'objets qui sont à faire, on a deux mondes qui sont différents. Alors, Guillaume Escobar, vous allez peut-être nous parler un peu des gens qui viennent, puisque vous les connaissez bien, vous les croisez tous les jours, et vous allez nous dire un petit peu ce qu'ils pensent, comment ils fonctionnent, et qu'est-ce qu'ils espèrent trouver au Fab Lab.
Voilà, donc déjà, quand ils passent la porte du Fab Lab et qu'ils voient toutes ces machines, il y a beaucoup de projets qui naissent dans leur tête.
C'est déjà des gens qui ont des idées de projet, parce qu'il y a des tas de gens qui n'ont pas d'idées de projet.
On est d'accord, il y a deux typologies. Il y a des gens qui ont un projet très particulier et qui vont venir nous solliciter pour ce projet-là. Et il y en a qui sont un petit peu indécis, qui vont venir voir tout ce qu'on propose. Et là, il va naître des projets. Alors, ça peut être des projets sur différentes machines, différentes technologies, ou même, ils vont se focaliser sur une machine en particulier, comme la découpeuse laser, et ils vont aller chercher des projets sur cette machine-là. Donc, nous, pour les projets, ça peut aller, par exemple, d'une pièce de refabrication de pièces, où quelqu'un a cassé, dans la vie de tous les jours, a cassé une petite pièce, et bien sûr, le SAV n'aura plus cette pièce, donc ils vont se tourner vers nous et savoir ce qu'il y a comme possibilité, par exemple. Donc nous, on n'est pas sous-traitant, on va pas leur dire « je vous refais la pièce ». Le but du jeu, nous, c'est l'éducation. Donc ils vont venir, ils vont adhérer au Fab Lab, et on va les former, on va faire la pièce ensemble, de A à Z, pour qu'ils voient le concept même de la pièce. Donc, c'est-à-dire, par exemple, de la modélisation jusqu'à l'impression 3D. Et ils vont repartir avec leur pièce qu'ils auront, sur laquelle ils auront participé à la recréer, au fait.
Modélisation, ça veut dire que quidam, personne qui passe comme ça, est en capacité de modéliser la pièce future. Parce que, je veux dire, c'est un problème de l'esprit. Comment passer de l'idée de la pièce à sa formalisation en 3D et à sa réalisation concrète.
Alors, c'est là où, effectivement, il y a un grand cap à franchir. Hein. La personne qui vient, bien évidemment, c'est pas tous des cracks en informatique, hein, donc on va pas se mentir. Donc, nous, on est là en tant qu'animateur, justement, pour les aider à créer cette, par exemple cette modélisation en 3D sur l'ordinateur. On passera du temps avec eux. Au départ, on va prendre la main pour commencer les dessins. Et puis, quand ils auront compris, on va leur laisser la main pour qu'ils essayent de participer à l'élaboration de leur projet. Mais dans tous les cas, il faut savoir qu'on sera toujours là, nous, pour accompagner les gens dans leur projet. C'est-à-dire qu'ils ne restent pas seuls devant un écran à ne pas savoir quoi faire. Nous, on est là pour les guider, on est là pour les aider techniquement ou logiciellement, et puis jusqu'à la fabrication de la pièce. Donc, il y a des personnes qui vont être à l'aise assez rapidement et qui, il y a quelques adhérents hein, qui sont devenus autonomes sur un procédé de fabrication parce qu'ils ont compris le principe, ils ont vu comment ça se passait, voilà. Mais nous, en tout cas, et c'est vrai que c'est le grand blocage qui se fait au départ, c'est est-ce que je vais y arriver ? Et là, non, nous, on est là pour aider vraiment dans toutes les démarches de fabrication, de la création jusqu'à la fabrication.
Alors les gens, bah oui, c'est une terminologie très générale, on n'identifie pas qui est qui, où sont-ils ? Comment ces gens savent-ils qu'il y a un Fab Lab ? Comment peuvent-ils avoir l'idée d'avoir envie de franchir la porte avant même de savoir s'ils ont un projet très précis à réaliser? Où sait-on qu'existe un Fab Lab?
Alors, déjà, on commence à la source, hein, c'est-à-dire que les écoles. Donc, on a, durant ces deux dernières années, on a fait beaucoup de portes ouvertes, de découvertes des ateliers à toutes les écoles du coin, hein, que ce soit, ça va de la maternelle jusqu'au lycée. Donc, voilà. Et puis après, ça se fait au fur et à mesure par le bouche à oreille. C'est-à-dire que voilà, on a des personnes qui sont venues, qui ont vu l'intérêt et qui en font la publicité. Donc on arrive à, comme ça à avoir un peu plus de monde. Après, bien évidemment, on est présent sur les réseaux sociaux, hein, sur Facebook, etc. Mais généralement, c'est le bouche à oreille, on va dire, qui nous apporte le plus, je dirais.
Puis aussi, on a une démarche d'aller vers. C'est aussi une démarche globale de la collectivité d'aller vers. On l'a au travers les France Services. On va toujours vers. On a un bus, on a la bibliothèque, voilà. Principe de bibliothèque itinérante collectivement. Donc aller vers les publics qui sont empêchés ou qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas l'idée de venir. Donc on a acquis des machines qui sont portatives pour se déplacer. Donc on s'est déplacé sur le collège, les portes ouvertes du collège de Bretenoux. On a objectif de se déplacer dans les écoles, on s'est déplacé sur les marchés, on se déplace dans toutes les fêtes un peu populaires. Bon, pas toutes, hein, parce qu'on peut pas, mais on essaie de faire connaître un maximum et d'aller vers les gens pour les sensibiliser. Parce que c'est vrai, quand on dit découpe laser, imprimante 3D, les gens ne comprennent pas l'utilité qu'ils peuvent en tirer. Et du coup, ce aller vers permet de faire un peu de pédagogie et de titiller les gens qui, in fine, devront venir. Mais ça a marché et quand on arrive à les capter, c'est des gens qui viennent après nous voir. On compte beaucoup aussi sur les élus pour faire la promotion, évidemment, du lieu. Et effectivement, le bouche à oreille fonctionne très bien aussi.
Oui, parce qu'en fait, vous n'êtes quand même pas un staff énorme au Fab Lab. Vous êtes 3, 2. Donc ça veut dire que le potentiel d'accueil des gens, admettez qu'il y ait 500 personnes qui fassent la queue pour venir faire quelque chose, voir quelque chose, plus les entreprises, il y a forcément des limites. Est-ce que vous fixez des règles en disant, voilà, au-delà d'un certain... Guillaume.
Non, alors Anne, plutôt. Je tiens quand même à dire que c'est exceptionnel, les moyens qui sont mis sur ce Fab Lab. Et on a deux personnes qui permettent évidemment de couvrir une palette assez large en termes d'horaires. C'est vrai qu'une personne, elle a des horaires administratifs. C'est pas un gros mot, hein, de dire qu'on a des horaires administratifs, mais c'est quand même limitant. Des gens ont des congés. Donc ça veut dire que des agents, ils ont une vie comme les autres. Donc si on n'a qu'une personne, c'est fermé, période de vacances, ou potentiellement, on peut avoir du monde. Des mondes qui ne peuvent pas venir à des horaires un peu classiques. Donc le fait d'avoir deux personnes, c'est une vraie volonté de la collectivité d'ouvrir très largement et de permettre à un maximum de personnes de venir. Maximum de personnes, que ce soit les scolaires, que ce soit les entreprises aussi, parce que les entreprises, elles viennent très souvent en début de travail. Enfin voilà, les ingénieurs qui passent, qui veulent imprimer des pièces, ils viennent avant de prendre leur travail, ou à la fin. Quand ils reviennent, s'ils sont dans les coins et qu'ils vivent dans les coins, à la fin. Donc le fait d'avoir deux personnes permet aussi d'avoir une palette horaire très large, et c'est preuve de la collectivité, d'investissement sur le site aussi. Parce qu'un site, on l'a vu, hein, c'est un site qui est potentiellement haut niveau. On l'a vu parce que quand on a monté le projet, on a fait du benchmark, et un des freins à la venue des gens, c'est les horaires. S'ils sont fermés à 5 heures, si les portes sont fermées à 5 heures et si pendant les vacances il n'y a personne, c'est un frein pour tout le monde. Donc c'est une vraie volonté de la collectivité d'avoir ces deux personnes. Et effectivement, ils ont des journées bien occupées, ils en ont des moins occupées. Il y a une partie administrative aussi qui est importante. On a parlé de la communication, donc il faut communiquer, il faut écrire des articles, il faut faire de la maintenance. Donc tout ce qui, quand on ne reçoit pas du public, ils sont quand même forcément occupés sur les machines ou en administratif. Mais effectivement, ils ne s'ennuient pas. Les mercredis, généralement, il y a les écoles. Guillaume va expliquer un peu le principe, ou Myriam. C'est sur rendez-vous. Donc on prend le temps aussi, enfin la plupart du temps. Enfin, on ne ferme pas la porte aux gens qui arriveraient en disant « Coucou, montrez-moi ce que c'est que le Fab Lab ». Ils prennent le temps. Je les salue là-dessus. Mais la plupart du temps, un projet, ça demande du temps. Donc il y a un temps de rendez-vous qui est pris pour justement prendre le temps avec la personne pour ne pas être à la va-vite ou faire le projet à sa place. Le temps est un facteur très important aussi du Fab Lab. Donc je laisserai un petit peu mes collègues compléter.
Oui, effectivement, une personne qui viendra avec un projet, il y aura forcément des rendez-vous qui vont se mettre en place, hein, parce qu'il va falloir qu'on évalue, nous, la réalisation du projet, les matériaux qu'elle va devoir apporter, la technique qu'on va devoir utiliser, etc. Donc oui, ça demande, on reçoit généralement notre public sur rendez-vous. Voilà. Alors, c'est les écoles, c'est les associations, c'est...
Vous dites, Guillaume, les écoles, ou est-ce que c'est les écoles? C'est un nombre de bambins ou de jeunes adolescents en quantité importante. Vous êtes capable de les d'en amener ici ou vous allez les voir avec un matériel qui leur permettra de comprendre de quoi il s'agit?
Alors, les deux. Les écoles qui sont proches et qui peuvent se déplacer facilement, ils viendront au Fab Lab et on fera, en général, on va scinder en deux groupes, un groupe avec moi, un groupe avec Myriam, et on va leur montrer deux technologies différentes, ça peut être l'impression 3D, le plotter vinyle, découpe laser, peu importe, et ils vont voir un petit peu le procédé de fabrication, comment ça se fait, et ils poseront des questions, voilà. Et après, effectivement, il y a l'autre partie où on va se déplacer dans les écoles, et donc là, on a quelques appareils portatifs, comme on a un petit plotter de découpe vinyle, justement, et une petite découpeuse laser. Et on peut aussi ponctuellement déplacer un scanner 3D ou une imprimante 3D. Et donc là, on leur apporte la technologie dans la classe et on fera des petits ateliers ludiques pour leur montrer la technologie. Quoi. Et voilà.
Ça appartient à l'esprit des cursus scolaires, de penser, je dirais, sous cette forme-là. L'école a été assez formatée quand même dans ses manières de faire des apprentissages. Est-ce que la découverte d'un monde qui, justement, passe de la virtualité à la réalité, ce qui est intéressant parce que souvent, il y a aujourd'hui des tas d'enfants ou jeunes gens ou jeunes filles qui ne restent que dans la virtualité à travers des outils portables ou autres éléments. Alors que là, on pense quelque chose, on imagine sa réalisation et on passe et à un moment donné, il y a un objet qui existe concrètement.
Oui, c'est ça, effectivement. Dans le programme scolaire, jusqu'à présent, sur les cursus CM1, CM2, on leur apprend la programmation, on débute avec la programmation et effectivement, des fois, il peut y avoir des petites interactions avec des robots. Mais là, c'est vrai qu'avec les machines, là, par exemple, on fera des affichages. Et voilà, ils vont repartir avec quelque chose qu'ils vont tenir dans les mains. Et là, c'est la nouveauté, effectivement. Où là, il y aura le produit fini qu'ils auront créé de A à Z. Voilà. Donc, effectivement, il y a cette partie qui est très, très intéressante pour les enfants. Parce qu'il y a quelque chose de concret. Et les enfants, ils aiment bien, je pense.
Mais les adultes aussi. Hein. Je veux dire qu'on est quand même, tant qu'on n'est pas virtualisé en tant qu'individu, on a une existence concrète quand même. Et donc, on tient à ce qu'elle soit.
Mais c'est vrai que le fait de repartir avec son petit objet qu'on a créé, c'est quand même très satisfaisant. Quoi.
On nous a parlé un peu de tous ces rapports aux gens en général qui vont, des gens qui connaissent déjà, des gens qui ne connaissent pas encore, des enfants, des adolescents. Et Myriam Delprat, elle, est plus tournée vers les entreprises, donc des gens sérieux, carrés, qui ont des objectifs précis, il y a des besoins financiers, il y a des contraintes. Alors, comment ça se passe? Anne Pécris nous a fixé le départ et les intérêts que les gens ont trouvés à mettre en place ce lieu. Mais dans la réalité, c'est comment ça se passe, les entreprises par rapport au Carlieu.
Alors, dans la réalité, ça se passe bien. Dans la réalité, les entreprises viennent soit par hasard, soit parce que voilà, elles ont été au début du projet, donc elles connaissent le projet depuis le début. Et puis, ben souvent, elles viennent pour tout ce qui est impression 3D et scanner 3D. C'est la première venue des industriels, du moins. Donc, on va les aider de la même manière qu'on va aider les particuliers ou les écoles. Voilà, on fera exactement pareil. Comme disait Guillaume tout à l'heure, on ne fait pas de sous-traitance. Par contre, on va faciliter grandement les process de fabrication avec les industriels.
Est-ce que ça veut dire que les industriels qui vont dégager un, deux ingénieurs pour venir travailler sur un projet font aussi que ces ingénieurs vont s'approprier vos machines et mettre en place leur projet ou bien restez-vous maître de vos machines après que le projet ait été formalisé?
Alors ça peut, effectivement. Il y a des entreprises dont certaines personnes s'impliquent sur les machines et deviennent autonomes. Mais la plupart du temps, ils n'arrivent pas à ce niveau-là parce qu'ils n'ont pas le temps de passer des heures et des heures au Fab Lab, malgré qu'ils aimeraient bien. Donc on est toujours là en soutien, en fait. On est toujours là pour les aider dans leur projet.
Jusqu'à présent, on a parlé comme si c'était quelque chose de gratuit pour tout le monde. En fait, c'est pas complètement gratuit pour tout le monde. Il y a des coûts pour les particuliers qui sont des coûts pas très élevés d'adhésion au Carlieu ou au Fab Lab, mais pour les entreprises qui vous demandent quand même des heures de préparation, des heures de machine, il y a quand même forcément un devis et un coût qui est établi.
Alors oui, mais comme tout le monde en fait, hein, on fonctionne de la même manière pour tous les adhérents. Il y a une adhésion annuelle qui est différente en fonction des statuts. Donc si ce sont des particuliers, des associations, des écoles ou des entreprises, et si ce sont des entreprises du territoire Coval d'Or ou hors Coval d'Or. Ensuite, il y a un coût d'utilisation de machines qui s'applique. Et ça, c'est vrai pour tous. Et le coût est différent si ce sont des particuliers ou des professionnels.
Mais à la fois d'utilisation des machines, mais aussi de votre propre temps, puisque votre temps n'est pas facturé aux entreprises. Anne.
On a plusieurs systèmes. Après, on a des partenariats privilégiés avec les entreprises où c'est du temps contre du temps. Eux aussi peuvent mettre du temps à disposition pour venir animer des sessions jeux, d'autres sessions. Donc là, on a un partenariat quand même privilégié. Après, on a un coût d'utilisation machine qui englobe Pas que le matériel, qui est censé un petit peu aussi travailler sur qui nous permet aussi de dégager du budget pour la maintenance. Mais il est clair que voilà, on considère que c'est un service public, un service qui va donner un avantage à nos particulier avec l'utilisation d'un service public comme une bibliothèque, hein, du montage de projets, prototypage qui va appuyer les entreprises dans leurs projets de développement. Et quand une entreprise se développe, c'est toujours bon pour la collectivité qui bénéficie de l'emploi, de son rayonnement. Voilà, c'est un service, comme je le disais tout à l'heure, d'une palette d'appui aux entreprises.
Le Fab Lab et, je dirais, le Carlieu existe depuis combien? 2 ans. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire après 2 ans par rapport à un avenir possible? Et en particulier, bon, je pense que France Service ou le coworking ou les salles mises à disposition ne posent pas de questions. Mais le Fab Lab, son avenir, c'est poursuivre le développement du nombre d'adhérents particuliers et du nombre d'entreprises.
Oui, on essaie de toujours développer le projet, de pas rester en statique, parce que on sait très bien qu'un service dédié au numérique et dédié aux nouvelles technologies, s'il reste endormi dans ses petits projets au quotidien, du coup, il va perdre son avantage concurrentiel. Donc, on essaie de réfléchir. On l'a évoqué tout à l'heure à la réalité virtuelle, qui est aussi une technologie qui va arriver. Donc, on essaie de rester à la pointe là-dessus. On essaye aussi de rentrer avec la région et l'État dans un système de formation qualifiante. Donc ça, c'est l'objectif de cette année et de l'année prochaine, sur comment, c'est bien beau de venir bricoler, mais comment demain, on peut marquer ça sur un CV. Donc, on est labellisé des FIOC sur justement travailler sur rapprocher les systèmes de formation et les points de formation de la région et de l'État, au travers France Travail, sur des formations qualifiantes. Donc ce lieu en fait partie, donc les gens peuvent venir assister à des formations à distance, et in fine on espère pouvoir se faire labelliser aussi comme formation qualifiante. Donc ça, c'est aussi un objectif. Donc on est toujours en phase projet, voilà, on essaie d'avancer en fonction des projets que vont nous amener les différents acteurs, les besoins qui vont remonter du territoire. Donc on est très à l'écoute aussi, et les élus le sont, des besoins quotidiens du territoire et des besoins futurs, pour essayer toujours d'adapter l'outil et les services aux vrais besoins des vrais gens. Donc voilà.
Bien, merci à vous trois, Anne Pécric, Myriam Delprat et Guillaume Escobar. Que peut-on dire de ce lieu qui est presque le lieu de tous les possibles ? Presque. Viendra un jour, il sera le lieu de tous les possibles.
On va œuvrer pour, hein. On peut pas tout faire, mais on essaye quand même de faire aboutir les projets.
Bien, merci à vous. Et puis, bien, je souhaite que de nombreuses personnes ouvrent les portes et viennent vous voir, ne serait-ce que pour découvrir ou pour mettre en chantier leurs imaginaires.
Venez boire un café, venez nous voir, venez discuter avec les agents sur place, ils sont là pour vous expliquer, venez, repartez, revenez, vous êtes chez vous, évidemment, ici.
Et voilà, vous avez entendu, vous êtes chez vous.